19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à tous et surtout à toutes. Je suis extrêmement heureux de recevoir Michel Onfray dans cette émission parce qu'il est controversé et c'est important, les gens qui agitent des idées. Kafka dit d'ailleurs qu'on ne doit lire que des livres qui vous mordent ou vous piquent. Il écrit ça, je crois, dans son journal. Et que les livres qui ne font pas cet effet-là au lecteur ne méritent pas d'être écrits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, j'ai pas le souci de ce qu'on dit de moi, si je suis controversé ou pas, par qui, comment. Je suis pas sur les réseaux sociaux, je ne lis pas les papiers qui me sont consacrés.
Non, mais je veux dire, vous n'écrivez pas pour endormir, c'est ça que je veux dire.
Ça, pour moi, c'est pas l'idée que je me fais de la philosophie dès le départ. C'est-à-dire que je me souviens de mon vieux maître Gérard Fagnon quand je suivis son cours de philosophie antique, il me dit, lisez ça, Onfray, c'est fait pour vous, et c'était les cyniques grecs.
Oui, voilà.
C'est là que j'ai découvert Diogène, que j'ai découvert Cratès, Antisthène, etc. J'ai fait un petit livre d'ailleurs en 91 sur eux. Et ce sont effectivement des philosophes qui m'intéressent. Je crois que Diogène dit à un moment donné de Platon, mais à quoi sert ce philosophe qui n'a jamais gêné personne?
Oui,
je pense que le travail de la philosophie, c'est ce que, enfin, Nietzsche disait, c'est de nuire à la bêtise.
Alors, vous y arrivez assez bien. Et vous, mais vous publiez trop. Enfin, écoutez, 3 essais en 3 mois chez Bouquin, Le fétiche et la marchandise, Théorie de Jésus ensuite, et puis Patience dans les ruines le mois dernier. Mais c'est difficile de vous interviewer parce qu'il faut lire 120 ouvrages que vous avez publiés depuis vos débuts.
Je suis d'accord. Vous avez raison, j'écris trop, ça c'est sûr.
Vous êtes un graphomane?
Oui.
Mais c'est normal ou pas quand on est un intellectuel? Il y a des penseurs qui sont rares.
Je pourrais faire ma psychanalyse, si vous voulez. Je pense que moi, j'ai été mis dans un orphelinat quand j'avais 10 ans et les livres m'ont sauvé. Oui. Et j'ai découvert un peu, quand j'étais dans cet endroit où il y avait des prêtres dont certains étaient pédophiles, il y avait la saleté, la crasse, on était 120 au dortoir, au réfectoire, se sentait mauvais, etc. Et j'ai découvert la puissance du livre. On ouvre un livre, d'un seul coup, on est ailleurs. C'était en l'occurrence Le vieil homme et la mer d'Hemingway, et donc j'ai découvert la puissance du livre. Bon, je l'ai beaucoup dit, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, il n'y avait pas de livre à la maison. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis ainsi fait que tout doit déboucher dans un livre. Donc j'écris tout le temps, je pense tout le temps, enfin,
oui, mais vous faites pas que ça, vous avez aussi une revue Front Populaire, une web TV avec mon ami Stéphane Simon. Donc est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un intellectuel engagé?
Oui, c'est la partie intellectuelle engagée chez moi, c'est-à-dire qu'elle recouvre parfois peut-être tout, ou trop, mais il y a une partie de philosophe, il y a une partie de poète aussi, j'ai fait une dizaine de recueils de poésie, j'ai fait une pièce de théâtre, enfin, etc.
Et puis, on va en parler, parce que j'ai lu vos 120 livres pour l'émission.
Moi, je me doute.
L'émission n'a que 60 minutes, malheureusement. Oui, je ne sais pas comment on va faire pour parler de tous les livres. Bon, déjà les 3 derniers. Alors, c'est intéressant parce que ces 3 livres illustrent votre démarche plurielle. Le premier... Le fétiche et la marchandise, c'est une critique du capitalisme nihiliste et transhumaniste. Vous citez beaucoup George Orwell, Aldous Huxley. Vous essayez d'analyser cette dystopie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais à vos débuts, vous défendiez l'hédonisme matérialiste. Et je me suis demandé maintenant si vous ne le dénoncez pas un peu. Est-ce que vous seriez d'accord avec le Onfray des années 90?
Je viens de faire une préface pour le prochain tome du journal Hédoniste dans lequel je réponds à cette question-là en disant, le titre d'ailleurs c'est « Immobile dans le courant du fleuve », c'est la phrase d'Héraclite. Oui. Moi je ne pense pas avoir changé parce que je pense que dans les années 90, je défendais déjà cet hédonisme, pas consumériste. Je pense qu'il y a un hédonisme philosophique qui est le remède à l'hédonisme consumériste. Donc je pense toujours ça.
Hédonisme sobre. C'est ça.
Ça dépend ce que vous appelez sobre.
Oui. Parce que vous aimez bien boire du vin, mais je veux dire sobre au sens limitant les besoins.
C'est un hédonisme qui prend autrui en considération. Autrui n'est pas ma chose, n'est pas mon objet, c'est-à-dire je ne loue pas l'utérus d'une femme, je n'achète pas des enfants, etc. Ça, pour moi, c'est le capital et le capitalisme. Mais je peux passer des contrats. J'ai écrit un livre qui s'appelait Théorie du corps amoureux, qui était une invitation au contrat, un peu sur le mode, c'est plus, vous le savez bien, ça n'est plus possible aujourd'hui, mais sur le mode de Casanova. Oui. Et la possibilité de contracter pour avoir du plaisir ou de n'en pas avoir. Alors, bien évidemment, quand on a 30 ans ou 2 fois 30 ans, le plaisir n'est pas le même.
Oui.
Il y a un plaisir qu'on dira positif quand on a 20 ans, et puis un plaisir d'évitement du déplaisir quand on est plus âgé.
Donc vous voudriez dire que peut-être si vous avez évolué, vous dites que non, mais si jamais vous avez donné l'impression d'évoluer, c'est simplement parce que vous avez vieilli?
Oui.
Bah, voilà une réponse courte. J'aime les réponses courtes.
Oui, oui, oui. Mais le Nietzschéen que je suis, c'est qu'on a une philosophie, c'est une autobiographie. L'autobiographie d'un jeune homme n'est pas l'autobiographie de quelqu'un qui a deux fois l'âge du jeune homme.
Deuxième livre qui vient de sortir, c'est La théorie de Jésus, toujours chez Bouquin. Biographie d'une idée, parce que vous dites en gros que Jésus, c'est une arnaque historique, il n'a jamais existé. Mais en revanche, le concept, lui, existe et même vous plaît plutôt. Hein, c'est ce qui vous intéresse, c'est plus son message que son histoire.
D'abord, je vois que vous avez lu le livre.
Parce oui, c'est nouveau, ça, dans les émissions où vous allez.
Oui, merci. C'est plutôt rare. Parce qu'effectivement, la fin dit effectivement l'essentiel du livre. Alors, tous ceux qui n'ont pas lu la fin, c'est-à-dire qui n'ont même pas commencé le début, passent à côté du sens du livre. Donc, oui, pour moi, je pense qu'il n'a pas existé historiquement.
Oui.
Mais qu'il a existé conceptuellement. Je dis, il n'est pas le produit d'une relation sexuelle, mais d'une relation textuelle. Parce que c'est tout ce qu'est Jésus, l'Ancien Testament l'a annoncé.
Oui, oui.
Là, je suis en train de lire, probablement comme vous devez lire la même chose, mais la vie de Pythagore par Jean Blic.
Bien sûr.
Et c'est très exactement le même schéma. C'est-à-dire, on fait des biographies comme ça, qui sont des hagiographies. Alors, Pythagore, il a une cuisse en or, par exemple, et il fait des miracles. Alors, évidemment, tous les gens disent, mais non, c'est allégorique. Je dis, mais faites ça avec Jésus, vous verrez, ça marche bien.
Oui, ça marche bien aussi. Alors, mais cela dit, vous êtes quand même, rappelons-le, l'auteur du traité d'athéologie en 2005, qui était un de vos plus grands succès, qui est un essai sérieux contre les trois monothéismes. Et on a aussi, là, l'impression d'une évolution de votre part. C'est que cet athéisme, il est quelque peu contrebalancé par une certaine nostalgie de votre enfance catholique. Vous avez parlé du pensionnat où vous étiez, qui était un très mauvais souvenir, et en même temps qui vous imprègne, que vous le vouliez ou non. Cette culture-là, judéo-chrétienne, elle fait partie de vous.
Oui, mais c'est pas gênant de dire qu'on ne croit pas en Dieu, mais qu'en même temps, la civilisation qui a été produite par ce Dieu est une civilisation qu'on aime et qu'on défend.
Oui.
Moi, je défends la civilisation judéo-chrétienne parce que je préfère effectivement que les femmes soient en jupe courte et puissent avoir un permis de conduire et aller à l'université plutôt que de dire que les femmes, elles pèsent deux fois moins que les hommes, elles doivent avoir autant de maris que le mari le décidera et qu'elles n'ont pas à faire d'études, à conduire de voiture ou ce genre de choses. Je pense que les civilisations ne se valent pas.
Ou qu'elles doivent être excisées.
Par exemple, exciser, infibuler, enfin toutes ces choses effrayantes. Et donc, je pense que cette civilisation, elle a rendu possible, c'est ce que je dis sur la fin de ce livre, l'image, et que c'est pas rien, c'est la totalité de l'art occidental, et quand je dis l'art occidental, c'est d'une certaine manière la totalité de l'art mondial, et qu'il n'y aurait pas eu, par exemple, de photographie, ou de cinéma, ou de télévision, par exemple, s'il n'y avait pas eu un concile de Hiera, qui est un concile consacré aux images, et qui opposait les iconophiles et les iconoclastes, les iconophiles qui aimaient les images, et les iconoclastes qui les refusaient. Une civilisation d'iconoclastes, ça existe, ce sont les musulmans ou les juifs. Les juifs ne veulent pas de représentation de figurée de leur dieu, mais ils ont un texte libre, c'est-à-dire ça a créé le génie des juifs, qui est le génie herméneutique de l'interprétation, etc.
On a reçu la semaine dernière le rabbin Delphine Horviller
émission,
et qui nous a beaucoup parlé de ça. Alors, votre premier choix musical, Michel Onfray, c'est Richard Wagner. Le prélude du troisième acte de Tristan et Isolde. Et Tristan et Isolde, bien sûr, c'est la plus grande histoire d'amour de toute l'histoire de l'humanité. C'était donc le premier choix musical de Michel Onfray, Richard Wagner, prélude du troisième acte de Tristan et Isolde par l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Barenboim en 1982. Michel Onfray, donc je disais, vos trois derniers livres sont un peu le reflet de votre démarche. J'ai dit, il y a le fétiche et la marchandise chez Bouquin qui critique le capitalisme, en gros, et ses excès, sa folie de consumérisme. Le deuxième, Théorie de Jésus, qui analyse le message du Christ, tout en critiquant son existence réelle. Et puis, alors, il y a le troisième, qui est le plus surprenant, et à titre personnel, mon préféré des trois, c'est Patience dans les ruines. Patience dans les ruines, toujours chez Bouquin, et qui est le résultat d'un séjour que vous avez effectué à l'abbaye de La Grâce, où moi-même aussi j'ai séjourné, et qui, alors, pour le coup, est un livre plus étonnant de votre part, parce que c'est une véritable défense de la civilisation judéo-chrétienne. On en parlait juste avant d'écouter Wagner, mais tout de même, là encore, on sent en vous une nostalgie de l'encens, un désir de sacré. Vous parlez longuement de saint Augustin comme d'une réponse à la décadence de l'Occident. Bon, alors voilà, je suis surpris. Et expliquez-vous, Michel Onfray, vous, l'athée, oui. Comment pouvez-vous être si heureux dans un monastère augustinien ?
D'abord parce que dans le monastère, il n'y a plus rien. Il n'y a que soi face à soi. Alors face à Dieu, pour ceux qui y croient, mais moi je n'y crois pas. Donc, et il y a une espèce d'invitation à réfléchir sur le superflu de notre existence. Il y a beaucoup de superflu dans ma vie. Donc, on se dit, mais finalement, alors bon, évidemment, il faut croire en Dieu quand le Père Michel qui m'accompagne et qui me dit « la prière est mon métier », je trouve ça formidable, dire c'est mon métier, le métier de prier. Et je lui dis, mais moi, c'est un peu la même chose, sauf que je ne m'adresse pas à un Dieu auquel je ne crois pas. Et donc, saint Augustin a écrit des sermons sur la décadence, et oui. Quand je me suis retrouvé trois jours dans cet endroit, il y avait des magnifiques bibliothèques un peu partout, et dès que j'ouvrais la porte de ma cellule, il y avait devant moi, là, dans un couloir incroyable, vous l'avez vu.
Oui, je connais.
La collection Sources chrétiennes, enfin, oui. Il y a des merveilles, là.
Et donc, alors, le sermon sur la chute de Rome, oui. De Saint-Augustin, qui oui. date de l'an 410,
oui. C'est formidable.
Vous le voyez comme un message très actuel. Il dit notamment comment se comporter en temps de décadence. Et cette quête de la grâce, oui. C'est quelque chose quand même qui ne peut pas être complètement athée. Je vais essayer de retourner Michel Onfray, et dans cette émission, il va se prosterner à la fin, il va se prosterner devant le Seigneur, notre Dieu.
Moi, je crois pas qu'on cherche la grâce. Elle arrive ou elle n'arrive pas. C'est ça qui est intéressant chez Augustin aussi. Si vous avez la grâce, eh ben voilà, quoi, elle est tombée, c'est Dieu qui a décidé, et si vous la cherchez, vous ne la trouverez pas forcément. Tout l'augustinisme et tout ce qui va donner par la suite, Port-Royal, etc., enfin tout le problème avec le roi, la Révolution française, c'est très important cette idée de dire, mais quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est pas vous qui faites votre salut, c'est Dieu. Si vous êtes un débauché total et que Dieu a décidé de vous sauver, il vous sauvera.
C'est arrivé à Saint-Augustin d'ailleurs, parce qu'il était quand même pas mal hédoniste. Hein.
Oui, mais il a changé de vie, donc oui. Il y a eu une conversion chez lui. Mais imaginez un libertin total qui ne change pas de vie, si Dieu veut le sauver, il le sauve. Et si un bigot total doit être puni, parce que Dieu le peut, eh bien Dieu le punira. Et c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Alors évidemment, politiquement, c'est pas possible. Vous pouvez pas défendre une thèse comme celle-ci. Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas besoin de faire des choses bien ou mal, mais de toute façon, c'est Dieu qui décidera.
Oui.
Donc c'est un beau sujet théologique, mais en même temps, c'est un beau sujet politique. Moi, je crois que c'est le seul sujet religieux qui soit, la grâce. Si Dieu existe, il vous la donne ou il ne vous la donne pas. Et je comprends pas que des gens aient pu m'agresser, enfin si, je comprends bien, mais des chrétiens, parce que je dis, mais c'est votre Dieu, vous n'avez qu'à vous en prendre à votre Dieu, vous n'avez qu'à me faire signe, ce sera beaucoup plus simple.
Non, mais alors il y a la fameuse phrase de Barbet d'Aurevilly, vous savez, oui. À propos d'un rebours de Huysmans, il dit, après ce livre, Huysmans n'a le choix qu'entre la bouche du revolver et les pieds de la croix. Est-ce que vous êtes dans ce dilemme-là, en ce moment ?
Non, parce que d'abord, j'ai pas la nostalgie de cet orphelinat, j'ai pas la nostalgie du christianisme que je n'ai jamais pratiqué vraiment. Moi, j'ai vraiment jamais cru en Dieu. C'est pas l'orphelinat qui m'a rendu athée.
Quand vous étiez dans ce pensionnat, vous entendiez ces chants oui. grégoriens. Et là, vous dites sur ces chants qu'ils ont quelque chose de magique. Et un effet sur vous.
À la grâce.
Oui, à la grâce. Ils vous font pleurer.
Ah oui, il y a un moment donné où vous êtes là et vous avez l'impression d'être contemporain de quelque chose qui a lieu, je sais pas, en l'an 600 ou en l'an 700, quoi. Vous dites, on est hors du monde, dans le monde. La lumière tombée, d'ailleurs. Enfin, vous vous souvenez de cet endroit. Et c'est assez magnifique.
Je vous demande de lire le dernier paragraphe de Patience dans les ruines. Michel Onfray va donc se lancer dans un exercice difficile.
Ben oui,
une homélie laïque.
Les conservateurs et les réactionnaires ont tort, tout autant que les révolutionnaires. On n'empêche pas la venue de ce qui doit advenir, ni par l'immobilisme, ni par la restauration, ni par l'émeute. Sur ce sujet, l'Augustin janséniste, si je puis dire, a raison. Tout étant écrit, ce qui est écrit aura lieu. Toute résistance à l'entropie est vaine. Le monastère qui, sur Terre, fabrique de l'éternité par la ritournelle de la règle, incarne l'une des réponses esthétiques à la décadence. Il n'empêchera pas l'effondrement prévu de l'édifice, mais, du moins, il aura offert les derniers feux de ce que fut l'illumination de la civilisation judéo-chrétienne.
Ça, c'est la fin du livre. Ouais. Donc, c'est votre conclusion. Alors, ça m'amène à une question difficile. Aimez-vous le Christ sans y croire ?
Non, parce que ça n'aurait pas de sens d'aimer un concept, à proprement parler. Mais quand il prend une forme un peu...
On sent que vous l'aimez bien, ce gars-là. Vous dites que ce qu'il dit, ça résonne aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres, des choses toutes bêtes comme ça.
Oui, voilà, mais ça, c'est la sagesse des nations. C'est-à-dire, quand les chrétiens nous disent il a tout de même inventé ceci ou cela, je dis, excusez-moi, mais il y avait quand même un peu avant la Torah, le Talmud ensuite. Enfin bon, il y a eu également des sagesses égyptiennes, il y a eu des sagesses mésopotamiennes. Enfin, tout ça a été quand même savamment pillé. Oui. Le déluge, il se trouve dans l'épopée de Gilgamesh, ça se retrouve dans l'Ancien Testament. Enfin, il faut faire de l'histoire des religions en même temps que de l'histoire des textes anciens. Donc, il y a des textes, le Code d'Hammurabi, par exemple, où vous avez très précisément ces choses-là. Il vaut mieux respecter son voisin que de ne pas respecter. Il ne faut pas tuer. Quand on tue, on est dans l'impureté. Enfin, ce n'est pas chrétien, ça.
Oui, mais vous n'êtes pas allé faire une retraite dans un... Comment dire oui. dans un temple assyrien.
Parce que ça n'existe plus.
Il n'y en a plus. Non.
Mais j'ai été sensible. J'ai pu me trouver sensible aussi, sensibilisé dans des mosquées, dans des synagogues ou dans des temples en Inde, par exemple. À Kajuaro, enfin, il y a des endroits où on sent, ou par exemple à Bénarès. Oui, oui. J'écris un petit livre sur Bénarès où je raconte ce qui se passe quand on est vraiment sur les gâtes et qu'on entend exploser des corps sur la plage et que les crânes explosent parce que ben voilà, ça crépite. Il y a l'odeur de la viande cuite et grillée et puis par la suite, le lendemain, on voit des corps qui traversent parce que les gens qui n'auront pas eu de quoi brûler totalement leur cadavre balanceront ce qui en restera dans le Gange. Et je suis aussi sensible à ça. Dès qu'il y a de la spiritualité, je pense qu'un philosophe qui dirait « je suis pas sensible à la spiritualité » ne mériterait pas ça.
Mais surtout vous, parce que vous parlez de l'Apocalypse tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de dire que le monde court à sa perte. Et là, on sent que vous avez besoin de symbolique, vous avez besoin d'allégorie pour, peut-être par instinct de survie, je ne sais pas, pour trouver un sens.
Oh non, je parle pas que de ça. Mais on ne me fait parler que de ça.
Pardon.
Et puis non, j'ai pas ça pour vous. Mais c'est
parce
vrai
que vous voyez, vous choisissez Jésus. Vous auriez pu dire tiens, je vais écrire sur un autre personnage de fiction, D'Artagnan ou Cyrano de Bergerac, quoi qu'ils aient. Les deux existaient. Hein,
mais... Ça produit moins d'effet dans le monde. Mais je trouve que ce livre-là, je le porte depuis très longtemps. Et puis vous avez vu au départ, je rends hommage à mon vieux maître Gérard Fagnon qui m'a dit un jour, vous écrivez un Jésus. Il m'avait dit, vous écrirez aussi un De Gaulle. Et j'ai fait ce De Gaulle. Je suis dans une piété filiale à son endroit. Et c'est une vieille idée que j'ai d'écrire ce livre. Je le dis dès le départ, j'ai une douzaine d'années, quand j'assiste à la messe dans mon village, et je me dis, ça ne peut pas vouloir dire ce que ça veut dire, ce qu'on nous raconte, qu'on guérit un aveugle, et qu'on fait marcher un paralytique, ça veut dire autre chose. Donc j'ai le sens de ce que peut signifier la symbolique, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Donc c'est quelque chose que je porte pendant très longtemps. Je veux à un moment donné faire des études de théologie. Je m'aperçois qu'il vaut mieux croire en Dieu. Et puis je laisse cette idée-là dans un coin. Puis je l'ai reprise pour faire le livre que je voulais de toute façon écrire un jour.
Mais ce que je vois, c'est que dans cette conclusion que vous avez lue, vous dites le monastère n'empêchera pas l'effondrement prévu de l'édifice. Donc là, il y a le côté pessimiste qui est habituel chez vous et qui est une preuve d'intelligence quand même. Et puis, malgré tout, vous dites il y a une beauté, c'est beau, ce sont les derniers feux de la civilisation judéo-chrétienne. Autrement dit, est-ce que vous êtes quelqu'un de résigné ou est-ce que plutôt, comme Gandhi, vous êtes partisan de la résistance passive ?
Non, je suis réaliste, je ne pense pas être pessimiste. C'est-à-dire que j'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler et je n'avais pas la culture qui me permettait vraiment de comprendre Spengler quand je l'ai lu. Et je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, parce que quand même, sa culture est immense. Mais je commence à avoir une culture qui me permet de penser dans la longue durée. Qui plus est, ma vie me permet de penser en termes de longue durée. Et on se dit, mais on fait toujours une erreur, on commet toujours une erreur en ne pensant pas en termes de longue durée. Je ne suis pas nostalgique de Lascaux, je ne suis pas nostalgique des pyramides égyptiennes ou du Forum romain, ou je ne suis pas nostalgique de toutes les civilisations qui se sont effondrées. Et je pense que les civilisations vivent sur le principe de ce qui est vivant. Elles naissent, elles croissent, elles décroissent, elles meurent. Et je le constate chez nous. Maintenant, je ne dis pas c'est pas bien. Ça n'aurait aucun sens de nier la décadence. Ce sont les décadents aujourd'hui qui nient l'existence de la décadence. Mmh. Et puis, ce serait ridicule de dire je ne veux pas que ça ait lieu. Alain, Le Pen ou Zemmour en disant on va mettre sur pied un programme politique qui va empêcher ça. Non, on peut pas, non, on n'est pas tenu non plus avec les progressistes d'estimer que c'est formidable et qu'il faut en rajouter dans la, mettre une pièce dans la machine en disant allons-y. J'ai dit ça beaucoup, mais enfin Paul Preciado par exemple qui nous fait savoir qu'on doit pouvoir avoir des relations sexuelles avec les animaux ou manger les matières fécales. Je suis pas sûr non plus que ce soit nécessaire. Donc on n'est pas tenu d'être progressiste. Et zoophile, et on n'est pas tenu non plus d'être réactionnaire et ronchon. On peut juste dire oui, bah voilà, la civilisation meurt. Je suis dans une civilisation qui meurt. D'ailleurs, je vous annonce que je vais moi-même mourir aussi, que c'est prévu et qu'il n'y a
bienvenue au club.
Bah oui, et qu'il n'y a aucune raison de s'en formaliser. C'est ainsi.
Non, mais Saint-Augustin dit. Il parle du monde immonde. Vous voulez quand même combattre ce monde immonde. Et pour cela, ben, étrangement, les deux derniers livres que vous publiez sont des livres sur la religion chrétienne. Voilà, c'est tout. Est-ce que moi, par exemple, je peux vous parler de moi. Je suis un athée qui doute de son athéisme. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes vous aussi un athée qui doute de son athéisme ?
Ah non, pas du tout. Non.
Vous ne posez aucune question. Vous ne dites pas, tiens... Qui suis-je pour dire que Dieu n'existe pas ?
Non, c'est pas ça le problème. C'est que je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il existe fabriqué par les peurs des hommes. J'ai lu aussi Feuerbach et l'analyse qu'il fait de la création de Dieu et de la création des religions est formidable. Ce sont nos impuissances qui nous font créer Dieu à l'inverse de son image, ou à l'inverse de notre image. Nous sommes limités, finis, on ne sait pas tout, Dieu est illimité, il peut tout, etc., etc. Vous mettez à genoux devant cette idole que vous avez créée, vous demandez à cette idole qu'elle vous donne ce qui vous manque et vous avez créé Dieu. Et donc, je ne suis pas contre Dieu, je dis juste que si on en fait l'analyse, ben on voit bien comment ça fonctionne, alors je lui reproche rien, je dis simplement que je n'ai pas besoin de lui.
Et cependant, Michel Onfray, vous avez choisi d'entendre le premier mouvement de la deuxième symphonie dite « Résurrection ».
Oui.
Eh oui, de Gustave Mahler.
Thank you.
C'était le premier mouvement de la deuxième symphonie, dite Résurrection, de Gustav Mahler, interprété par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Zubin Mehta en 1975. C'est le deuxième choix musical de Michel Onfray, que nous retrouverons juste après ces quelques messages.
Karina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Découvrez À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabanac. Au cœur du Pays Basque, une femme disparaît sans laisser de traces. 20 ans plus tard, l'enquête est relancée. Mais réveiller les secrets du passé n'est jamais sans conséquence. À pleurer, tout nous condamne de Cécile Cabanac, en librairie chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers.
Bach exprime l'indicible, le sacré. L'intensité de la passion selon Saint Jean, par le Riaskommer Chor et l'Académie Furalte Musique Berlin. Et de l'abîme à la lumière, les plus grands motets et cantates de Bach par Insula Orchestra et le chœur Accentus sous la direction de Laurence Equilbert. Bach à l'Auditorium Patrick Devedjian de la scène musicale les 26, 28 et 29 mars. Réservation sur lascenemusicale.com. Les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture.
De Bach aux Sherman Brothers, œuvre phare et univers musicaux inattendus, dialogue sous les doigts de Florian Noack. Ces transcriptions et variations nous font découvrir un monde de liberté, de raffinement et de plaisir défendu, au détour d'une insolente virtuosité. I Wanna Be Like You, par Florian Noack. Une nouveauté, la Dolce Volta.
Piano numérique, acoustique, silent, les plus beaux pianos vous attendent chez Neubau et Ham. Bösendorfer, Steingraber, Yamaha, Grotrian, Schimmel. Neuf ou d'occasion, venez essayer, comparer et choisir le piano de vos rêves. Pianistes débutants ou confirmés, les plus belles marques et des offres exceptionnelles vous attendent dans nos trois adresses parisiennes. Rendez-vous sur neubau-ham.com. Neubau et Ham, la passion des beaux pianos.
J'ai quelques économies et je cherchais un placement qui ait du sens, avec un fort impact social. Je sais qu'Habitat et Humanisme fait un travail remarquable auprès des personnes en difficulté. Alors j'ai investi dans la société foncière d'Habitat et Humanisme, qui achète et rénove des logements pour les plus fragiles. Mon argent a une vraie utilité sociale. Et en plus, je bénéficie d'un avantage fiscal.
Avec la foncière d'Habitat et Humanisme, votre argent peut construire de très belles choses. Une nouvelle augmentation de capital est en cours. Plus d'informations sur habitat-humanisme.org.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Depuis une demi-heure, je converse chez La Pérouse avec Michel Onfray et c'est très agréable. Même si je n'arrive pas à le coincer, j'essaie de lui faire dire qu'il croit en Dieu et qu'il est un catholique normand. Profane, un disciple de Saint-Augustin, laïque. Mais vous-même, je crois que c'est... Alors j'ai lu tous les livres, ils se mélangent dans ma tête, mais je crois que c'est dans Patience dans les ruines, vous dites que vous avez une sorte de cellule monacale dans votre appartement de Caen. En tout cas, à un moment, quand il y a eu des travaux, vous aviez vraiment l'impression d'être dans un monastère chez vous.
C'est ça.
Et vous êtes un peu un moine. Parce qu'on ne travaille pas, on ne publie pas 120 livres en quelques décennies, combien ? En même pas 40 ans.
89, oui.
Oui.
Du siècle dernier.
Voilà, ça fait quand même. Vous travaillez tout le temps, dans la solitude et, et le silence, et pieds nus dans la neige.
Non, mais c'est vrai que c'est une vie que j'ai choisie comme ça. Mon épouse y consent, c'est-à-dire qu'elle vit chez elle, moi je vis chez moi, et je vis à mes heures, à mon temps, et je travaille tout le temps. J'ai dit que j'aurais aimé être moine, que je n'avais pas la foi, que c'était quand même le minimum d'avoir la foi pour être moine quand j'avais 12, 13 ans, 13, 14, 15 ans, je ne sais plus. Et je vis assez bien ça aujourd'hui, avec les livres, avec la méditation, la réflexion. Et de fait, quand il y a eu un dégât des eaux un jour chez moi et que je me suis retrouvé avec une pièce totalement vidée de ce qu'il y avait dans cette pièce, c'est-à-dire plein de livres, des œuvres d'art, des objets, des choses, etc.
Vous avez trouvé que c'était mieux?
J'ai trouvé qu'une pièce dans laquelle il y avait un matelas par terre et qu'il y avait une petite table, une petite chaise et puis une lampe pour pouvoir écrire, je me suis trouvé devant l'évidence que le reste était inutile et que je perdais beaucoup de temps avec l'inutile.
Je peux vous reposer une question que j'ai déjà posée dans l'émission, Quelle tête ferait le Onfray des années 90 s'il lisait « Patience dans les ruines » ou le Onfray de 2024 critique Vatican II ?
Ben, j'ai jamais dit du bien de Vatican II, donc je me sens pas vraiment en contradiction.
Bon, enfin, vous étiez l'auteur de « L'art de jouir » en 91.
Oui, mais ça ne s'excluait pas. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelait « Le christianisme hédoniste », qui était le tome 2 de la contre-histoire de la philosophie, où je montrais que on n'était pas tenu d'être un chrétien de Vatican, du Vatican d'aujourd'hui, je disais à l'époque, donc, et que on pouvait lire Montaigne, on pouvait lire Erasme, on pouvait lire d'autres dont on parlait un peu moins, Lorenzo Valla et autres, et qu'il y avait eu des chrétiens de la Renaissance et que ces chrétiens de la Renaissance m'intéressaient. Moi, ce que j'ai pas beaucoup aimé dans le christianisme, ce que j'aime toujours pas, c'est la haine du corps. C'est cette idée que Jésus aurait été incarné, alors que là aussi c'est une métaphore, c'est une allégorie. Donc toute cette détestation du corps, tout ce qui a rendu possible les sades ou les batailles, ça, je reste sur ce sujet un contempteur de l'idéal ascétique. Donc il faudrait que qu'on prenne les textes et puis qu'on les prenne les uns après les autres en disant ben vous avez dit ceci et aujourd'hui vous dites ça et ça c'est le contraire. Non, je dis par exemple à la fin du traité de la théologie que j'en ai contre les agenouilleurs, mais pas contre les agenouillés.
Et là, on va écouter quelques agenouillés. Ça, c'est Dieu seul suffit. Ce sont des paroles de Sainte Thérèse d'Avila et c'est un chœur du séminaire français de Rome. Je voulais vous faire chialer, j'ai pas réussi.
Mais ça aurait pu.
Mais pourquoi vous n'avez pas choisi de chant grégorien d'ailleurs dans vos choix de musique classique pour l'émission ? Vous auriez pu ?
Oui, j'aurais pu. Oh, ça aurait fait ton sur ton, je pense. Oui.
Et puis on est sur Radio Classique et non sur Radio Notre-Dame. Je le précise pour les auditeurs qui prendraient l'émission en cours de route. Nous sommes toujours chez La Pérouse, maison de plaisir et non pas dans une église. On a dans cette émission un jeu qui s'appelle « Devine tes citations ». Mais je sais que vous connaissez l'émission, donc je ne vous explique pas les règles. Je les rappelle pour les auditeurs. Je vais lire des phrases de Michel Onfray et il doit me dire dans quel livre il a écrit ceci. Comme il en a écrit 120, il est probable qu'il va se tromper. « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. »
Saint Paul.
Oui, c'est pas de vous, c'est de Saint Paul, c'est la première épître aux Corinthiens. Mais vous la citez dans votre dernier livre, « Patience dans les ruines ». Autre phrase de vous, cette fois. « Le chant grégorien a la pureté d'un filet d'eau claire, un jour de matin du monde, dans la clarté du premier jour de l'humanité. »
C'est « Patience dans les ruines », ça.
Oui, bon, c'est dans le dernier. Ok, bon, alors je continue.
Vous êtes sûr ?
Ah, oui, ben, pour l'instant, vous gagnez tout le temps. Ça m'énerve. En plus, là, la prochaine est très facile à deviner. Freud prend son cas pour une généralité.
Oui. Bah, dans un livre consacré à Freud qui s'appelait « Le crépuscule d'une idole ».
En 2010. Mmh. C'est votre plus grand succès. Freud, vous dites, voulait coucher avec sa mère et tuer son père. Donc, tout le monde devait avoir le complexe d'Œdipe. Il prenait son cas pour une généralité. Ouais, il a voulu imposer au monde son problème à lui. Ouais.
Bon, vous allez un peu vite, mais c'est un bon résumé. Parce que je fais l'analyse de tout ça à partir de la correspondance, des lettres qu'il envoie à Fliss, et qui montrent effectivement que le désir de coucher avec sa mère, il parle d'ailleurs en latin quand il commence à parler de sa mère nue, est un désir qui lui est propre. Et moi, ça va, je témoigne, j'ai jamais voulu coucher avec ma mère, j'ai jamais voulu tuer mon père.
Mais, quand même, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la psychanalyse a des effets sur certaines personnes, elle a de bons effets. Si on prend mon cas, moi j'ai fait une psychanalyse, ça m'a aidé par exemple à arrêter la drogue. C'est quand même pas mal.
Vous êtes sûr?
Pour l'instant, je n'ai pas rechuté, mais...
Il y a des effets placebo. Il y a aussi, à Lourdes, ils ont aussi des succès de ce genre-là, avec des gens qui...
Ah, vous croyez que c'est que ça?
Ah, mais c'est beaucoup.
Mais
c'est
vous ne pensez pas que
c'est
le fait de...
C'est à peu près 20% l'effet placebo d'un médicament. Oui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'effet placebo chez les psychanalystes. Ça coûte déjà suffisamment cher pour que...
Non, vous ne pensez pas en d'autres termes, même si je comprends, je trouvais ça intéressant et stimulant, de toute façon, c'est toujours bien un peu d'attaquer les idoles. Mais dans le cas de la psychanalyse, le fait de se confesser, de parler de ses problèmes, aide à aller un peu mieux quand on, oui, quand on met des mots sur son malaise.
Absolument. Non, mais ça, c'est un type qui s'appelle Antiphon, qui est un sophiste, qui a inventé ça, et c'était un contemporain de Platon. Donc oui, c'est vieux quand même, c'est quand même très vieux. Non, ce que je reproche à Freud, c'est de dire qu'il soigne et qu'il guérit alors que c'est faux. Et je lui reproche de dire que, quelle que soit votre pathologie, votre problème, votre souffrance, disons-le plutôt comme ça, c'est toujours rabattu sur de l'oedipien. In fine, vous avez passé 20 ans à donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui va vous dire, je vais vous dire un truc, je pense que vous avez envie de coucher avec votre mère, je pense que vous avez envie de tuer votre père. C'est une clé pour toutes les serrures, et ça ne marche pas. Alors, moi, j'ai fait, après, un livre qui s'appelait, qui faisait une suite, ça s'appelait Apostille au crépuscule, qui était un éloge de la psychanalyse en dehors de Freud. Ça, on ne l'a pas beaucoup dit. Et parce qu'il y a eu des gens qui, comme Eric Fromm, souvent des Juifs qui avaient quitté l'Autriche et qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Aux États-Unis, ça ne marchait pas, les histoires de Freud, ça faisait rire tout le monde. Et il fallait soigner les gens de manière efficace et rapide. Et on a laissé de côté cette psychanalyse. Et moi, elle me plaît beaucoup. Et puis, j'aime pas beaucoup Sartre, je l'ai beaucoup dit. Mais Sartre a inventé une psychanalyse existentielle qui est très, très intéressante. Donc je ne suis pas contre la psychanalyse, je suis contre la psychanalyse freudienne.
Tiens, justement, puisque vous le citez, écoutons Jean-Paul Sartre.
Pour ce qui est de la question du rapport de la femme et de l'homme, je suis absolument d'accord avec Simone de Beauvoir. Pour ce qui est de l'organisation sans les hommes, je me suis souvent demandé si c'était nécessaire ou non. Je ne peux pas répondre actuellement, puisque je vois bien que pour les femmes c'est nécessaire actuellement, et je me demande si c'est la vraie forme de lutte, c'est-à-dire si des formes qui irait des hommes qui pensent comme elle à elle, ne pourrait pas avoir aussi une importance.
Mais les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes. Et même vous qui êtes théoriquement, idéologiquement, tout à fait partisans de l'émancipation des femmes, et tout ça, eh bien, vous ne partagez malgré tout pas ce qu'elles appellent, que j'appellerai avec elles, le vécu des femmes. Évidemment. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre.
Ce qui est très amusant dans cet extrait, c'est qu'on entend Jean-Paul Sartre qui se fait engueuler par Simone de Beauvoir.
Oui, très drôle.
Et c'était pour vous faire un peu parler de cette guerre des sexes dans laquelle on se situe aujourd'hui. Parce que je n'arrive pas très bien à connaître votre position, si je puis dire, si je puis employer ce mot. Mais vous avez tendance à... Oui, vous êtes à la fois très féministe et en même temps choquée peut-être par les excès, les débordements du néo-féminisme aujourd'hui.
Je suis choqué pas par le libertinage, mais par la violence. Je découvre, ouais, moi, j'ai même un peu honte un peu d'être un homme quand je découvre que des hommes font ce qu'on leur reproche, quoi. C'est terrible. Alors qu'après, il y a eu du libertinage, moi j'adore Marivaux, le Marivaux d'âge, la parole, le langage, j'ai eu la même chose avec Casanova, enfin, toute cette pensée-là est devenue impossible, elle est interdite. Mais quand je découvre effectivement qu'il y a eu ces gens qui mettent des mains dans les culottes des filles, je peux pas justifier ça, c'est pas possible. Maintenant, Beauvoir, elle a raison de dire quelque chose que les féministes n'entendent plus aujourd'hui. Les féministes devraient vraiment lire Simone de Beauvoir. D'abord, dans les premières lignes, elle dit que le féminisme, c'est foutu, c'est fichu. Personne ne va au-delà de la première page. Et pourtant, dès le début du deuxième sexe, elle dit c'est terminé, le féminisme. Et puis, elle nous dit là quelque chose que vous avez bien mis en évidence, c'est-à-dire que le masculin et le féminin, ça existe.
Oui.
Et que récemment, là, j'ai vu dans un papier du Figaro, je crois que l'intelligence artificielle est capable de distinguer des cerveaux d'hommes et des cerveaux de femmes. Très intéressant, ça. Ça, oui, veut dire, ah, d'un seul coup, une espèce d'égalitarisme un peu stupide. Et puis, il y a des hormones. C'est évident que le cerveau baigne dans des hormones et que les hormones mâles et les hormones femelles, c'est pas exactement la même chose. Donc, je pense que...
Est-ce qu'elle dit, elle dit à l'amour de sa vie, elle lui dit, tu ne peux pas comprendre les femmes parce que tu n'en es pas une. Est-ce que ça... Vous croyez que c'est vrai ou que c'est faux ?
Non, on peut pas dire ça, parce que ça voudrait dire qu'on ne connaît que ce qu'on a proprement vécu soi, c'est-à-dire que vous ne pourriez pas être contre le viol si vous n'avez pas vous-même violé, ou si vous n'avez pas été violé. Ça n'a pas de sens. On peut avoir une grande proximité et puis réfléchir. C'est vrai que Beauvoir, quand elle écrit sur la vieillesse, elle dit, mais je pense ma vieillesse, parce que ça oui, me concerne. Et qu'est-ce que ça veut dire, un livre écrit sur la vieillesse quand on a 20 ans ? C'est pas évidemment le même livre. Donc elle a pas tort, mais elle a pas totalement raison non plus là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a fait beaucoup de travail sociologique, Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe, c'est un peu pénible, oui, pour ça. Il y a des choses qui ont beaucoup vieilli. Mais des intuitions extrêmement intéressantes qui sont existentialistes. Elle dit, on ne naît pas femme, on le devient parce qu'on fait quelque chose de ce que les autres ont voulu faire de nous. Oui, c'est ça qui est génial.
C'est là où elle rejoint Sartre.
Mais voilà. Et d'ailleurs, sa pensée est sartrienne. Les féministes n'aiment pas beaucoup, mais je veux dire que c'est lui qui lui dit d'écrire sur les femmes. Que là, elle fait la dominatrice un peu sévère, mais à un moment donné, elle lui dit, ah, je sais pas trop quoi écrire, je sais pas sur quel sujet écrire. Et lui, c'est lui qui lui donne l'idée, qui lui dit, mais vous êtes une femme, ça fait votre spécificité, écrivez donc là-dessus. Et après, bon, bah, elle lui met une gifle en lui disant, vous pouvez pas savoir. Mais n'oublions pas, pour le coup, je vais défendre Sartre, oui, mais que l'idée du deuxième sexe a été donné à Simone de Beauvoir par Jean-Paul Sartre.
Bien sûr, mais d'ailleurs, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, elle rend hommage à Sartre. Elle dit que c'est grâce à lui qu'elle est devenue écrivain.
Et... Absolument. Et ce que je raconte, c'est ce que j'ai lu, effectivement, vous avez raison, dans les Mémoires de Beauvoir.
Votre troisième choix musical, Michel Onfray, c'est Franz Schubert. Gute Nacht. Bonne nuit à tous.
Tu dir gute Nacht.
C'était un lied de Schubert, Gutenacht, extrait du Voyage d'hiver, par Dietrich Fischer-Dieskau, accompagné au piano par Alfred Brendel en 1985. Michel Onfray est toujours mon invité. Nous avons parlé de beaucoup de choses. J'ai quand même quelques questions subsidiaires à vous poser. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu ?
Oh non, bah, y a des livres que j'ai laissé tomber parce que ça me paraissait insupportable. Bah, c'est Joyce, par exemple, Ulysse.
Ah tiens, vous avez du mal, comme tout le monde, mais enfin, personne n'ose le dire.
Oui, voilà, moi je le dis. J'ai lu Jean de Dublin, ça m'a plu. Oui. Dédalus, ça m'a plu. Et Joyce, enfin, Ulysse, j'ai jamais pu. Je me suis dit, mais je vais pas passer ma... Je sais pas combien de temps. Enfin, en Pléiade, ça fait presque 1000 pages. Je vais pas continuer à lire un livre que je ne comprends pas.
Donc, vous n'avez même pas essayé Finnegan's Wake, alors j'en déduis.
Non. Logique, après, je me suis dit, il y avait d'autres choses à lire que...
Et quel est le livre que vous auriez aimé écrire?
C'est difficile de dire ça comme ça. Je sais pas, peut-être De la nature des choses de Lucrèce, mais bon, c'est un peu prétentieux.
Non, vous auriez aimé l'écrire. C'est humble, au contraire. Quelle est votre odeur préférée?
L'œillet de poète.
Alors maintenant, je voudrais parler un petit peu de forme, parce que c'est une émission littéraire ici. Et je ne vous recevrai pas si vous ne saviez pas écrire clairement. Vous avez reçu le prix Médicis Essai pour la sculpture de soi en 1993. Et vous avez publié aussi beaucoup de livres, et qui d'ailleurs vous ont valu d'être dans mon dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, parce que normalement, il n'y a pas de philosophe dans un livre comme ça. Mais ce qui vous a...
Avec des vacheries, m'ont dit des gens que j'aimais bien.
Des vacheries sur vous?
Oui.
Non.
Je lis pas, je vous dis.
Oui, ah bah non, mais je vous le dédicacerai pour que vous lisiez Les Vacheries, mais je m'en souviens pas. Non, mais je parlais un peu de ces livres comme Théorie du voyage, sous-titré Poétique de la géographie en 2007, qui faisait un peu de vous un disciple ou plutôt un précurseur de Sylvain Tesson. Hein, c'était un livre sur. Un livre d'écrivain voyageur, en quelque sorte.
Oui, Jean-Luc Barré, qui dirige la collection Bouquins, me fait l'amitié de réunir tous mes récits de voyage prochainement. Dans un volume où, effectivement, je montrerai des choses qu'on ne lit pas beaucoup, enfin, des choses que j'ai écrites des voyages au pôle Nord. J'en ai parlé tout à l'heure en Inde, des notes prises en Afrique, ou dans un certain nombre de pays. Là, je rentre du Japon. Et de fait, ça fait partie des choses qu'on dit peu de moi, parce que ça a été souvent publié chez des petits éditeurs.
Bah, c'est peut-être ça la vacherie que j'ai dit sur vous, c'est que vous aviez effectivement dans Esthétique du Pôle Nord, tiens, en 2002, c'était un voyage avec votre père dans ce monde congelé. Et là aussi, il y avait quelque chose de littéraire, vraiment purement littéraire, comme qui faisait penser à Jean-Paul Kaufmann quand il va les îles Kerguelen, vous voyez.
J'adore ce que fait Jean-Pierre Kaufmann sur l'Arche des Kerguelen, c'est un très beau livre.
Oui.
La Chambre noire de Longwood. En fait, il y a tout un tas de livres. Oui, j'aime beaucoup aussi Sylvain Tesson pour sa vision du monde, sa façon d'écrire, sa façon d'être moraliste. C'est lui que j'avais entendu à votre émission. Et,
oui. Voilà, dans le même genre, mais un peu moins loin, Chemin de la Garenne, en 2019, c'est une promenade autour du village de Chambois, en Normandie. Mmh. Alors là, c'est un petit peu moins exotique que le Pôle Nord.
Ça dépend. c'est un mélange de Proust et de Bourdieu, ce petit voyage. Enfin, il y a toujours d'ailleurs le Chemin de la Garenne. Il y a des gens de temps en temps qui viennent avec le livre en main, qui font le petit tour. On me dit ça. Mon ami Ghislain Gondouin qui vend des livres anciens dans le village. Et c'est un mélange de souvenirs de tout ce que j'ai pu vivre. C'est-à-dire que je raconte l'effondrement du village. Et donc, je raconte aussi l'enterrement du fils d'un ami, ce qui me permet de parler de la religion, de ce que sont devenus les curés qui citent Tolkien, par exemple, pour l'enterrement. Je parle des fleurs ou des haies qui ont disparu. Enfin, c'est un mélange de poésie, de sociologie, et c'est un ouvrage affectif pour moi.
Oui.
Je trouve que c'est important de...
Mais c'est comme si... Alors, vous avez publié beaucoup d'ouvrages de vraie philosophie construite et solide, mais en même temps, peut-être, je crois que là où vous êtes le meilleur, c'est dans ces petits livres. Il y a aussi Le deuil de la mélancolie en 2018 qui parle à la fois de la mort de votre épouse et de votre AVC. Mmh. C'est alors là, purement de l'autobiographie. On pourrait presque dire que c'est du Annie Ernaux. Mmh. Vous ne me giflez pas?
Non. Moi, j'aime bien le travail d'Annie Ernaux. Mmh. Après, le personnage, c'est un peu autre chose. Enfin, venger sa race, j'ai pas beaucoup aimé cette idée. Non. On a la même race, et encore que. Ses parents, c'est une petite épicerie. C'est pas la vraie grande pauvreté. Mais c'est pas très grave, on va pas faire des concours de pauvreté. Et j'ai bien aimé, moi, j'aime bien son travail d'écriture, même. Cette façon de dire, elle a pas de style. Oui, elle a pas de style, mais un peu comme Houellebecq, mais c'est pas...
C'est un style blanc,
particulier,
oui,
absolument.
Tout à fait,
voilà,
oui.
C'est monochrome blanc, c'est pas rien dans l'histoire de la littérature. C'est pas suffisant pour moi pour l'attaquer. Alors après, il y a toute la militante, mais bon, ça c'est autre chose, pas très grave ça.
Mais peut-être vous n'avez pas, vous n'auriez peut-être pas de goût pour la fiction. Vous n'avez jamais écrit de roman.
Non.
Et ça vous tente pas.
Non, parce que ça, je sais que je ne sais pas faire. J'ai pas d'imagination, c'est-à-dire je suis bêtement accroché à la réalité. Je peux peut-être bien retranscrire quelque chose que j'aurais vécu, mais je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait pas eu d'AVC, qui raconterait ce que c'est qu'un AVC, par exemple. J'aurais l'impression d'un mensonge, en plus.
Et pourtant, dans votre travail de philosophe, vous créez des concepts, donc il faut avoir de l'imagination quand même pour créer des concepts.
Non, je ne crée pas de concepts, parce que ça m'a excité quand j'avais 30 ans et que je pensais que, à l'époque, Deleuze venait de faire paraître son Qu'est-ce que la philosophie, où il nous disait un philosophe, c'est un créateur de concepts, et c'est un inventeur de personnages conceptuels, et j'y ai cru, mais non, c'est un truc de prof de, philo qui aime bien les philosophes allemands. C'est pas suffisant. Alors j'en ai créé deux ou trois, mais sans intérêt. Quel intérêt de parler de Pax existentiel ou de trucs comme ça. Ouais. Moi, j'ai pas le souci des concepts. Il n'y a pas de concept chez Montaigne. On parle de la vie, de la mort, de l'amitié. Et c'est pourtant un très grand philosophe. Vous m'avez demandé tout à l'heure quel livre j'aurais bien aimé écrire. J'ai trouvé ça très difficile de répondre, mais j'aurais pu dire les essais de Montaigne.
C'est bien parce que c'est libre. Et en plus, on n'a pas besoin d'être long. Les chapitres sont courts. Oui, voilà. Oui. Est-ce que Patience dans les ruines, donc ce dernier livre, sur votre séjour au monastère des chanoines de la Grâce, est-ce que ça n'est pas la suite d'un autre livre publié en 2018 qui s'appelait La stricte observance? Et qui montre que ce n'est pas nouveau chez vous, ce goût d'aller s'agenouiller, ou en tout cas se plonger dans l'ambiance des moines.
Oui, j'avais beaucoup aimé un vieux monsieur, hélas décédé depuis longtemps, qui s'appelait André Bernegeoffroy. C'est à lui qu'on doit l'introduction du Caravage en France. Et il avait préfacé La vie de Rancé de Chateaubriand, en folio, pour l'édition de folio. Et j'avais souvenir d'avoir lu ça il y a très longtemps, avec un vrai plaisir. Et je me suis dit, tiens, je vais retourner lire ça sur place, à l'abbaye de la Trappe.
Ouais.
Et puis j'ai été un peu déçu parce que c'est un petit texte finalement. Je pensais que j'avais pris le volume de Pléiade, je pensais vraiment que j'aurais un temps de lecture incroyable. Puis en fait, non, ça a été lu très rapidement. Mais je suis allé sur place avec un vrai bonheur aussi, avec un vrai plaisir.
Alors vous avez préféré la Trappe ou la Grâce ?
La Grâce d'abord, parce que on était, vous le savez bien, on était de l'autre côté de la clôture. C'est donc un cadeau fabuleux qui nous est fait, parce que à l'abbaye de la Trappe, vous avez un endroit où vous êtes un peu à côté de la clôture, mais en deçà. Donc il y a les profanes, puis etc. Là, on est franchement à la Grâce. C'était un cadeau magnifique qui nous est fait. C'est-à-dire, on dîne, on déjeune avec eux. Oui. On dort dans le lit d'un moine qui nous a été offert, prêté, ouvert. Et puis voilà, quoi, le lendemain, il y a un moine qui dort à la place qu'on occupait. Et ça, c'est quelque chose de... C'est un cadeau incroyable, quoi.
Donc, c'est la vraie expérience.
J'ai fait des... Alors après, quand je suis parti de la Trappe, j'avais... On laisse un peu d'argent, on laisse ce qu'on veut, etc. Puis après, on m'a dit, mais enfin, on vous avait repéré, on sait bien qui vous êtes, on aurait bien aimé vous parler, vous êtes parti vite, etc. Mais il m'avait pas fait de signe, rien du tout.
Oui.
Alors qu'avec les moines, on est toujours en relation. On s'écrit, on se raconte des choses, on s'envoie des mails avec le temps long.
Oui. Alors, votre dernier choix musical, normalement, on demande du jazz, et vous avez choisi... C'est très beau d'ailleurs, la chanson d'Hélène.
Ah non, vous m'avez dit jazz ou musique de film.
Oui, alors voilà, donc vous avez bien obéi.
Voilà.
Et c'est Romy Schneider qui chante.
Voilà. Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne
C'est donc la voix émouvante de Romy Schneider qui chante la chanson d'Hélène. C'est la musique des choses de la vie de Claude Sautet, bien sûr, en 1970, choisie par Michel Onfray, que je remercie vraiment d'avoir accepté de dialoguer nonchalamment mais profondément dans ce salon superficiel chez La Pérouse. Merci beaucoup et surtout, j'engage nos auditeurs et auditrices à choisir entre le fétiche et la marchandise, théorie de Jésus et patience dans les ruines, les trois aux éditions bouquins, en ce moment en librairie, mais enfin, je pense qu'il y a encore une dizaine de livres qui vont paraître avant la fin de l'année.
Là, tout de suite, toujours dans les éditions bouquins, là, La Nef des Fous, le tome 4.
D'accord.
Une espèce de journal de toutes les folies.
Ah oui, c'est vrai que vous êtes assez bon pour les repérer.
Oui.
Ça, c'est quand? Il sort quand?
Il est dans la librairie, là.
Déjà? D'accord. OK. Et puis, je remercie toute l'équipe qui organise avec moi Conversation chez La Pérouse, Philippe Gault, notre producteur, Mathieu Roque-Lagot à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, Laure Maison vous attend pour le concert du samedi soir avec les Bee Gees. Non, pas du tout. Au programme, la 9e symphonie de Mahler, interprétée par l'Orchestre National de Lyon. Désolé pour cette déception. Merci à tous et à samedi prochain. Mon invité sera Scolastique Mukasonga.
Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé en partenariat avec Le Figaro Magazine.